Ici Francis Richard, nous sommes le 2 octobre 2009 et je vous parle de Suisse romande. Kadhafi a toujours un coup d'avance sur Merz dans l'affaire des deux otages suisses. Il y a un abysse entre Muammar Kadhafi et Hans-Rudolf Merz, entre le bédouin de carnaval, jamais sans sa tante, et le docteur S. Sciences politiques, entre le barbare et le civilisé, entre le fourbe et le naïf. Ils ne jouent pas dans la même cour et ne peuvent pas se comprendre. Que peuvent avoir en commun un dictateur à vie et un président élu démocratiquement pour un an? Rien. Les discours qu'ils ont prononcés l'un et l'autre devant l'Assemblée générale de l'ONU montrent à quel point ils sont différents, inconciliables. Le premier, Kadhafi, ne respecte pas les règles. Le second, Merz, les respecte peut-être un peu trop. Le premier a parlé plus d'une heure et demie. Le second a respecté le temps de parole qui lui était imparti, soit bien moins que les 15 minutes réglementaires. En dehors des effets de scène, comme celui de triturer, déchirer, puis lancer derrière lui la Charte des Nations Unies, ou de conseiller au président Obama, qu'il appelle mon fils, de devenir comme lui dictateur à vie, ou encore d'évaluer à 77,7 milliards de dollars ce que doivent les anciens colonisateurs aux anciens colonisés, ils remettent en cause le machin, comme l'appelait affectueusement le général de Gaulle, en se basant sur le propre préambule de sa propre charte, en contradiction avec la charte elle-même, et en soulignant le jeu trouble poursuivi par le Conseil de sécurité. Ces remarques, pas toutes farfelues, montrent à quel point l'ONU est une institution critiquable, non seulement parce qu'elle est inefficace et coûteuse, mais parce qu'elle est complètement utopique, qu'elle relève de cette idéologie qu'est le mondialisme, qu'il ne faut pas confondre avec la mondialisation. Muammar Kadhafi est certes mal placé pour faire des remarques sur la démocratie, mais il n'empêche que ce cynique a raison quand il souligne que, selon le préambule, les pays sont égaux, qu'ils soient grands ou petits, et que le droit de veto des 5 membres permanents du Conseil de sécurité est la preuve du contraire. Kadhafi a raison de dire en riant sous Djellaba qu'il y a contradiction entre les interventions, éventuellement militaires, de pays disposant du droit de veto et l'affirmation de la charte selon laquelle aucun pays n'a le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre pays. Il a encore raison de souligner qu'augmenter le nombre de sièges au Conseil de sécurité ne résout rien. Mais il ne peut que feindre de croire que la solution est de ne plus admettre d'autres membres, mais d'accorder l'égalité à ceux qui en font déjà partie. Tel quel, selon lui, le Conseil de sécurité devrait être appelé le Conseil de la terreur. Les superpuissances se servent de l'ONU pour servir leurs intérêts, et au lieu d'apporter au monde la sécurité, ne lui apporte que terreur et sanctions. Parole d'expert. Il en tire la conclusion que le monde n'a pas à suivre ses règles et ses décisions. Il aimerait bien que l'Union africaine dispose d'un siège au Conseil de sécurité et qu'après avoir siégé 50 ans dans l'hémisphère nord, l'Assemblée générale de l'organisation se tienne dans l'hémisphère sud pendant les 50 prochaines années. En contrepoint, dans son discours prononcé le lendemain, Hans-Rudolf Merz dit tout le bien qu'il pense de l'ONU, même si elle peut mieux faire. La coopération internationale, dit-il, est devenue vitale. L'ONU est le lieu où une telle coopération est mise en œuvre. Tu parles. Aujourd'hui, le monde a plus que jamais besoin de l'ONU. L'ONU doit poursuivre sur le chemin de la réforme afin de renforcer sa légitimité. Il salue le rôle de l'ONU. L'ONU a une légitimité unique pour jouer un rôle actif dans la prévention des conflits, la médiation, la protection des civils, le maintien et la consolidation de la paix. Mon pays, la Suisse, salue l'engagement accru de l'ONU dans ces domaines et préconise surtout le renforcement des capacités de prévention et de médiation du système onusien. Il se montre plus critique envers le G20, qui doit développer ses échanges avec l'ONU. Le G20 manque de légitimité et ne dispose pas de procédures transparentes pour décider des sanctions. Les membres du G20 eux-mêmes ne sont pas soumis au même type d'examen. La Suisse préconise une égalité de traitement et une meilleure consultation entre les non-membres du G20. Il se fait défenseur de l'économie libérale. La crise actuelle a parfois été utilisée par certains pour remettre en cause l'économie de marché et la globalisation. Je ne conteste pas le besoin de réforme, les échecs et les abus ayant été trop grands pour être ignorés. Nous devons toutefois nous rappeler que c'est également grâce à l'ordre économique libéral et à l'ouverture des marchés qu'une bonne partie de la population mondiale est sortie de la pauvreté. Mais dans le même temps, il souhaite que les voix du FMI, de la Banque mondiale, du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, de l'ONU, soit autant de machins, se fassent entendre par le G20. Il promet que la Suisse maintiendra son aide au développement. Il propose la création d'une taxe CO2 à l'échelle mondiale fondée sur le principe du pollueur-payeur. Il croit sans rire, dans son costume-cravate, que le Conseil des droits de l'homme est efficace. Le Conseil des droits de l'homme est le forum principal pour discuter des droits de l'homme à l'ONU. Tant les procédures spéciales que l'examen périodique universel ont prouvé leur efficacité en tant qu'instrument dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Bref, tandis que Kadhafi, non sans arrière-pensée, rue dans les brancards, Merz se fait consensuel. À l'iconoclaste, au maître chanteur s'oppose le conformiste, le crédule. Le discours poli succède au discours taillé. Ce sont ces deux personnages dissemblables qui se rencontrent pendant 40 minutes le soir du 24 septembre 2009. La rencontre a lieu à la mission libyenne à l'ONU à New York. Kadhafi prend déjà l'avantage puisqu'il est en somme chez lui. Que se disent-ils pendant tout ce temps? Mystère. Toujours est-il que Merz ressort la mine réjouie, cocu et content, comme on va le voir. Jean-Combe de Lalloye rapporte dans 24 heures du 25 septembre. Le président dit avoir obtenu de Muammar Kadhafi, un homme poli, qu'il se penche personnellement sur le cas des deux Suisses. Pas plus tard que le lendemain de la rencontre, le 25 septembre 2009, on apprend comment Muammar Kadhafi s'est penché sur le cas des deux Suisses. Je cite, « Sous prétexte d'un contrôle médical, les deux Suisses ont été convoqués il y a une semaine par les autorités libyennes. Mercredi, par le biais d'une note diplomatique, Tripoli a informé les autorités suisses de la détention des deux hommes d'affaires dans un lieu sûr. Depuis, on a appris que Muammar Kadhafi exige de nouvelles excuses de la Suisse. Cette fois pour la publication dans la presse genevoise de photos d'identification de son fils Hannibal prises lors de son arrestation. Dans cette partie de bras de fer, acier contre fer blanc, Muammar Kadhafi a toujours un coup d'avance sur Hans-Rudolf Merz, qui ne peut même pas imaginer, droit dans ses souliers, que l'autre soit aussi tordu dans ses babouches. Avant de quitter l'antenne, je rappelle à nos auditeurs que leurs réactions, leurs informations ou leurs commentaires sont les bienvenus et qu'ils peuvent nous les adresser par email en précisant seulement à quelle émission ils font référence. L'adresse email de la rédaction est radio-silence@wanadoo.fr. Je leur rappelle également qu'ils peuvent acquérir la carte annuelle d'amis de Radio Silence pour la modique somme de 20 euros. C'était Francis Richard qui vous parlait de Lausanne pour Radio Silence.